Chapitre 28, consacré à une pénible scène de famille. Tant que Maurice n'avait eu pour maîtresse que des femmes honnêtes, sa conduite n'avait donné lieu à aucun reproche. Il en fut autrement quand il fréquenta Bouchotte. Sa mère, qui avait fermé les yeux sur des liaisons coupables, il est vrai, mais élégantes et discrètes, fut scandalisée d'apprendre que son fils s'affichait avec une chanteuse. Berthe, la jeune sœur de Maurice, avait connu au catéchisme de persévérance les aventures de son frère. Elle les contait sans indignation à ses jeunes amis. Le petit Léon, qui venait d'accomplir ses 7 ans, déclara un jour à sa mère, devant plusieurs dames, que, quand il serait grand, il ferait la noce, comme Maurice. Le cœur maternel de Madame René d'Esparvieux en fut ulcéré. En même temps, un fait domestique et grave va alarmer Monsieur René d'Esparvieux. Des traites lui furent remises, signées de son nom par son fils. L'écriture n'était pas contrefaite, mais l'intention était formelle de faire prendre la signature du fils pour celle du père. C'était un faux moral. Et de ce fait, il apparaissait que Maurice vivait dans le désordre, faisait des dettes, était sur le point de commettre des indélicatesses. Le père de famille consulta sa femme à ce sujet. Il fut convenu qu'il ferait de sévères remontrances à son fils, parlerait de sanctions rigoureuses, et que la mère apparaîtrait au bout de quelques instants, affligée et douce, pour incliner à la clémence un père justement hérité. Les choses ainsi réglées, M. René d'Esparvieux fit appeler le lendemain matin son fils dans son cabinet. Pour plus de solennité, il avait endossé sa redingote. Maurice s'aperçut à ce signe que l'entretien serait grave. Le chef de famille, un peu pâle, la voix mal assurée, il était timide, déclara qu'il ne pouvait tolérer plus longtemps le dérèglement dans lequel vivait son fils et qu'il exigeait une réforme immédiate et absolue. Plus de désordre, plus de dettes, plus de mauvaise compagnie, mais le travail, la régularité, les bonnes fréquentations. Maurice aurait volontiers répondu respectueusement à son père qui, après tout, lui avait fait le juste reproche. Par malheur, Maurice aussi était timide. Et le redingote dont M. d'Esparvieux s'était revêtu pour exercer plus dignement une magistrature domestique semblait interdire toute familiarité. Maurice garda un silence maladroit et qui paraissait insolent. Ce silence obligea M. d'Esparvieux à répéter ses reproches et à les répéter sous une forme plus sévère. Il ouvrit un tiroir de son bureau historique. C'était celui sur lequel Alexandre d'Esparvieux avait écrit son essai sur les institutions civiles et religieuses des peuples, et en tira les traites souscrites par Maurice. « Sais-tu, mon enfant, dit-il, que tu as commis là un véritable faux, pour acheter une faute aussi grave ?» À ce moment, comme il était convenu, Madame René d'Esparvieux parut en robe de ville. Elle devait figurer l'ange du pardon, mais elle n'en avait ni la figure ni le caractère. Elle était sombre et dure. Maurice avait en lui le germe de toutes les vertus communes et nécessaires. Il aimait respecter sa mère. Il aimait plus encore par devoir que par inclination, et ce respect tenait plus de l'usage que du sentiment. Madame René d'Esparvieux avait de la coupe rose au visage, et comme elle s'était mis de la poudre de riz pour paraître à son avantage dans les tribunaux domestiques, elle y montrait un teint qui ressemblait à des framboises dans du sucre. Maurice, qui avait du goût, ne put se défendre de la trouver laide, et d'une laideur un peu répugnante. Il était mal disposé pour elle, et... quand elle eut repris en les aggravant les griefs dont son mari avait déjà chargé son fils, l'enfant prodigue détourna la tête pour ne pas lui montrer un visage irrité. « Ta tante de Saint-Fin t'a rencontrée dans la rue en si mauvaise compagnie qu'elle t'a suggéré de n'avoir pas salué. » À ces mots, Maurice éclata. « Ma tante de Saint-Fin, je lui conseille de se scandaliser. Tout le monde sait qu'elle a rôti le balai jusqu'aux manches et maintenant cette vieille hypocrite voudrait... » Il s'arrêta. Son regard avait rencontré le visage de son père qui exprimait plus de tristesse encore que d'indignation. Maurice se reprochait ses paroles comme un crime et ne concevait pas comment elles avaient pu lui échapper. Il allait fondre en larmes, tomber à genoux à pleurer son pardon, quand sa mère, les yeux au plafond, soupira. « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir mis au jour un fils si coupable ?» Retourné comme avec la main par cette parole qu'il jugeait affectée et ridicule, Maurice passa subitement d'un amer repentir à l'orgueil délicieux du crime. Il se précipita furieusement dans l'insolence et la révolte et lança tout d'une haleine des paroles qu'une mère n'aurait jamais dû entendre. « Si vous voulez que je vous le dise, maman, plutôt que de m'interdire de fréquenter une artiste lyrique pleine de talent et d'un caractère désintéressé, vous feriez mieux d'empêcher ma sœur aînée, Madame de Margy, de se montrer tous les soirs dans le monde et au théâtre avec un individu méprisable et dégoûtant qu'on sait être son amant. Vous devriez bien aussi surveiller ma petite sœur Jeanne qui s'écrit des lettres obscènes en contrefaisant son écriture, fait semblant de les découvrir dans son paroissien et vous les remet avec une innocence simulée pour vous alarmer et vous troubler. » Il n'y aurait pas de mal non plus à empêcher mon petit frère, Léon, de consommer, à l'âge de 7 ans, les dernières violences sur Mademoiselle Caporal. Et l'on pourrait dire à votre femme de chambre « Sortez, monsieur, je vous chasse de cette maison !» s'écria Monsieur René d'Esparvieux qui, blanc de colère, montrait la porte d'un doigt tremblant.